On m'a demandé de vous parler cet après-midi. Sur la question du leadership dans l'Église ancienne. Merci. C'est quelque chose qui est évidemment qui demanderait de très très longs développements. J'ai eu l'occasion d'en parler pendant un an dans le séminaire que nous faisons à Évry tous les mois. Et donc je vais essayer de résumer rapidement ce que j'ai pu dire donc en une année. La première remarque qu'il nous faut faire quand nous parlons de l'Église ancienne, c'est le fait que pendant, disons, au moins 10 ans, l'Église ancienne a été composée exclusivement de Juifs. Il n'y avait pas un seul non-juif au sein de l'Église entre la Pentecôte et ce qu'on appelle la Pentecôte des païens, c'est-à-dire la conversion de Corneille et de ceux qui se trouvaient dans sa maison. C'est à partir de Corneille que les choses ont commencé à évoluer et ont commencé à changer. Donc, il y a une grande différence entre ces deux périodes, la période d'avant la Pentecôte des païens et la période d'après. En ce qui concerne l'Église juive, par exemple, quand nous voyons un petit peu ce qui nous est dit dans le chapitre 15 du livre des Actes, le fameux conseil de Jérusalem, il y a donc de l'assemblée qui se rassemble, et elle est présidée par trois types de leaders, on pourrait dire, les apôtres, les anciens et les frères. Alors, les apôtres, ce sont essentiellement les 12. Et il faut savoir que les 12 ont une fonction très particulière, comme Jésus leur avait rappelé. Ce sont les apôtres d'Israël. Et dans le texte que nous avons évoqué ce matin, dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc, nous voyons que au moment du renouvellement de toutes choses, ça veut dire le millénium, ils seront assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Juger dans le langage biblique, ça veut dire gouverner. Donc ils seront les chefs des 12 tribus d'Israël au temps de la fin. Et vous retrouvez ça dans le chapitre 21 et 22 du livre de l'Apocalypse, où nous voyons la nouvelle Jérusalem avec 12 portes. Et vous avez à la fois donc sur les fondements des portes sont le nom des 12 apôtres et sur les portes elles-mêmes sont inscrits le nom d'une des 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que les 12 sont associés avec une tribu. Chacun des 12 est associé avec une tribu. Il sera donc le responsable, le chef de cette tribu au temps de la fin. Et c'est une des raisons pour lesquelles le collège des 12 devait être complet. Et au moment où disparaît donc un des 12 en la personne de Judas, après la crucifixion comme on le sait, les apôtres, la communauté éprouve le besoin d'élire un remplaçant à Judas, qui sera comme on le sait Matthias, pour que le collège des 12 soit complet. Maintenant ce qui est très intéressant c'est de noter les conditions pour pouvoir appartenir à ce collège des 12. Il fallait avoir été avec Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à l'ascension. Ça veut dire qu'il fallait avoir été témoin du ministère de Jésus depuis les origines jusqu'à la fin. Et c'est en cela que les 12 ont une fonction unique, non seulement vis-à-vis d'Israël, non seulement vis-à-vis de l'Église de leur temps, mais également vis-à-vis de l'Église de tous les temps et de tous les lieux. Parce qu'ils sont les témoins de ces événements qui marquent justement le ministère de Jésus depuis son début jusqu'à sa fin. Et en cela, il y a deux nécessités. Il fallait donc, comme le dira Pierre à Corneille, dans sa maison, que Jésus n'est pas apparu ressuscité à tout le peuple, mais, dit-il, à des témoins choisis d'avance. Et les douze vont recevoir cette mission le jour de l'Ascension, d'être les témoins de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. On a l'habitude de prendre cette parole « Vous serez mes témoins » pour soi, pour nous aujourd'hui. Bon, ce n'est pas faux de le faire, mais il ne faut pas oublier que dans le contexte, ceux qui sont appelés à être les témoins, ce sont essentiellement les douze. Parce que, justement, ils ont été témoins de ces choses-là. Par exemple, la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui nous garantit que Jésus est ressuscité? Vous l'avez vu ressusciter, vous? Moi, pas. Quelques rares personnes ont eu ce privilège. Par exemple, le Sadhu Sundar Singh raconte comment il a eu une véritable apparition de Jésus ressuscité. Bon, c'est quand même l'exception, il faut bien reconnaître. Donc, comment savons-nous que Jésus est ressuscité? Parce que des hommes dignes de foi, eh bien, se sont portés garants de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont entendu. Et bien sûr, il y avait 120 frères, nous est-il dit à la fois, qui ont dans une des apparitions de Jésus, nous rappelle l'apôtre Paul, mais disons que les douze sont ces garants, justement, de l'authenticité, finalement, de ce que nous appelons l'Évangile. Et c'est aussi de cette manière-là qu'il faut comprendre le phénomène du canon. Le canon, c'est-à-dire l'ensemble des livres qui constituent le Nouveau Testament. Nous savons que, outre les livres qui sont conservés dans le canon du Nouveau Testament, canon, ça vient d'un mot qui signifie un roseau à mesurer, littéralement, donc mesurer avec un roseau. Et donc c'est la norme, le canon c'est la norme. Et nous savons qu'il y avait de très nombreux autres évangiles qui circulaient à cette période, qu'on appelle les évangiles apocryphes. Il y avait les actes des actes apocryphes, il y avait des épîtres apocryphes, il y avait des apocalypses apocryphes. Bref, il y avait tout un foisonnement de littérature à cette période-là. Or, le canon ne nous a conservé que quatre évangiles. Pourquoi? Sur quels critères s'est-on basé pour ne garder que cela et éliminer tous les autres? Eh bien, justement, sur le témoignage des apôtres. Prenons par exemple l'apôtre Paul, qui n'appartenait pas au collège des douze, mais qui était quand même un homme, évidemment, qui avait eu la révélation de Jésus. Mais malgré cela, quand il a reçu la révélation de ce qu'il appelle son évangile, il est monté à Jérusalem pour exposer aux principaux des apôtres, aux principaux des douze, ce qu'il avait reçu, et en fait pour le soumettre à leur discernement. Et de fait, les trois colonnes, Pierre, Jacques et Jean, lui ont tendu la main d'association. Ça veut dire qu'ils ont reconnu que ce que Paul enseignait était conforme à ce qu'ils avaient entendu de la bouche de Jésus. Et par conséquent, ce sont les douze apôtres qui ont fait ce discernement en disant « ça, c'est conforme à ce que nous avons entendu de la bouche de Jésus, de ce que nous avons vu de lui ». Et ça, par contre, c'est douteux. Et c'est ainsi que de nombreux livres ont été écartés du canon du Nouveau Testament. Il y a un texte qu'on trouve chez les Pères de l'Église qui nous raconte que dans les années 60 du 1er siècle, Pierre se trouvait à Rome et il y avait donc une réunion qui se tenait dans une maison privée puisque les premiers chrétiens n'avaient pas de lieu de culte attitré. Et ils se réunissaient dans des maisons privées. Et donc, cette réunion avait lieu, et soudain est entré l'apôtre Pierre. Alors évidemment, on lui a donné la parole tout de suite, et il a posé la question, « Qu'est-ce que vous étiez en train de faire ?» Et donc, on a répondu, « Nous étions en train de lire le chapitre 7 de l'évangile de Marc, à savoir le récit de la multiplication des pains. » Et Pierre aurait répondu ceci, « Eh bien oui. » J'y étais. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Je peux vraiment vous dire que ça s'est passé comme ça. Et non seulement je peux vous dire que ça s'est passé comme ça, je peux même ajouter des détails qui ne sont pas conservés dans l'Évangile. Donc voyez-vous, les apôtres étaient la caution que ce que nous appelons l'enseignement des apôtres, ce qui est devenu le Nouveau Testament, est véritablement quelque chose de fiable. À la fin du premier siècle, après la disparition du dernier des apôtres, il y a un livre qui a été publié, un petit livre, qu'on appelle la Didaché des douze apôtres. Ça veut dire littéralement l'enseignement des douze apôtres. Ce texte est un texte qui est parfaitement, comment dirais-je, conforme avec le reste du Nouveau Testament. Et on s'est demandé si on n'allait pas ajouter ce petit livret au Nouveau Testament. Et finalement, après discussion, on l'a écarté. Non pas qu'il y ait eu des choses qui n'étaient pas justes, mais tout simplement parce que, à cette époque-là, il n'y avait plus d'apôtres vivants qui étaient capables de dire « ça, c'est conforme à ce que nous avons entendu » ou pas. Par conséquent, par précaution, on a écarté ce livre qui, finalement, aurait fort bien pu figurer au canon du Nouveau Testament. Donc ici, les apôtres. En dehors des douze apôtres, il y a d'autres apôtres que l'on pourrait qualifier d'apôtres de l'Église. Le plus célèbre d'entre eux est Paul. Paul n'appartient pas au collège des douze, bien qu'il soit apôtre, et on entend parler, par exemple, de Barnabas, d'autres personnages moins connus, qui sont cités, par exemple, à la fin des épîtres de Paul, et qui étaient regardés comme des apôtres. Mais donc, ici, à la tête de l'Église de Jérusalem, il y avait essentiellement les douze. Les anciens, alors cette idée des anciens s'est tirée de la synagogue. Les synagogues étaient dirigées à cette période-là par des anciens. Les rabbins n'avaient pas véritablement d'autorité à cette période dans les synagogues. Et finalement, l'Église ancienne a repris le modèle des synagogues pour se structurer et pour s'organiser. Et puis ensuite, des questions des frères. Les frères, ce sont les frères de Jésus. Et il est évident que dans l'Église ancienne, les frères de Jésus jouissaient d'une autorité particulière, ce qui était tout à fait normal, puisqu'évidemment, ils avaient eu l'occasion, plus que n'importe qui d'autre, de connaître Jésus intimement et personnellement. Et donc, ça, c'est la structure que nous retrouvons dans l'Église de Jérusalem, dans le chapitre 15 du livre des Actes. Dans le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, Paul nous parle de ce qu'était la structure des ministères de son temps. Et là, notamment, il va noter, alors il faudrait de longs développements pour pouvoir développer tout ça, il va y avoir cinq ministères que l'on appelle les cinq ministères apostoliques, des ministères qui concernent l'Église universelle, qui ne sont pas simplement des ministères locaux, mais qui étaient des ministères itinérants. Il est très intéressant d'ailleurs de noter que dans la Didaché des douze apôtres, ce petit livret dont je vous parlais il y a un instant, eh bien, on retrouve ces ministères. Ça veut dire qu'au début du IIe siècle, à l'époque de la Didaché, il y avait encore ces ministères itinérants qui visitaient les églises. Alors le premier, c'est celui d'apôtre. L'apôtre, c'est celui qui crée, qui structure l'église. Et il y a bien sûr encore aujourd'hui des apôtres de ce type-là. On parlait tout à l'heure avec notre frère du mouvement tzigane, et il est certain que le frère Le Cossec, qui a été le fondateur, était un apôtre. Il a été l'apôtre des gitans, ça c'est clair. Bon, des gens comme Livingstone, comme Adoniram Johnson, William Carey, les grands missionnaires de l'épopée missionnaire étaient aussi, à leur manière, des apôtres. Bon, je ne détaille pas parce que ça nous prendrait tout notre temps. Et ensuite, il y a les prophètes. Alors, il faut distinguer les prophètes de gens qui ont des dons de prophétie. Ce n'est pas parce qu'on a un don de prophétie qu'on est un prophète. Le don de prophétie est un don qui est épisodique, qui se manifeste de temps en temps. Le ministère de prophète, c'est quelque chose de permanent. Et nous avons un exemple d'un prophète néo-testamentaire en la personne d'Agabus, par exemple, dans le livre des Actes. Donc ce sont des gens qui sont dans une relation avec Dieu, je dirais, permanente, et le Seigneur peut les réveiller la nuit, pour leur dire d'aller faire ceci ou faire cela, d'aller dire ceci à tel endroit, à tel autre, etc. Donc c'est une dimension supplémentaire, si vous voulez, qui dépasse le simple cadre de la prophétie que, selon l'apôtre Paul, chaque croyant devrait être à même de pouvoir exercer. Ça, c'est quelque chose qui est, en principe, possible pour chacun. Mais, évidemment, le ministère de prophète, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ensuite, nous avons le ministère d'évangéliste. L'évangéliste, c'est celui qui appelle les inconvertis à se tourner vers Jésus. Et le ministère d'évangéliste est souvent accompagné par des ministères de puissance et notamment par le don des guérisons. Ensuite, nous avons le pasteur qui, lui, qui est le complément de l'évangéliste. Ça veut dire quand les gens sont entrés dans l'Église, le pasteur va les garder dans l'Église. Donc là, le ministère de pasteur se rapproche en cela pas mal de celui d'ancien. Et puis enfin, il y a le docteur qui, lui, a une révélation sur l'Écriture et qui est complémentaire du prophète. Il y avait à Antioche des prophètes et des docteurs. Ce sont deux ministères qui s'équilibrent et il faut qu'il y ait cet équilibre, sinon il y a des équilibres, justement. S'il n'y a que des docteurs, alors ça devient une doctrine secte. Et s'il n'y a que des prophètes, alors ça va aller dans n'importe quelle direction et il va y avoir des déviations graves. Donc il faut, si vous voulez, cet équilibre entre ces deux types de ministères. Et ensuite, il est question, dans les épîtres pastorales, des ministères de l'Église locale. Et les ministères de l'Église locale sont essentiellement au nombre de deux, anciens et diacres. Les anciens, c'est tiré de la synagogue, comme je disais tout à l'heure. Ils sont aussi appelés, dans certains textes du Nouveau Testament, épiscopoi. Ça veut dire des surveillants. On traduit en général par des évêques. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que les évêques sont devenus dans les églises historiques catholiques ou orthodoxes. Mais, disons, ce sont des surveillants, des gens qui exercent un ministère de sauvegarde qui veille à ce que la saine doctrine soit bien prêchée, qui empêche ceux qui enseigneraient des fausses doctrines de le faire et qui, donc, sont aussi amenés à intervenir si quelqu'un a des problèmes, etc., personnels. Et puis, il y a les diacres. Alors, ce sont des ministères qui ne sont pas des ministères d'autorité, contrairement aux ministères d'anciens, et qui sont donc des ministères de secours. Alors, on les réduit souvent à des tâches matérielles. C'est un peu réducteur. C'est plus que des tâches matérielles, mais c'est aussi beaucoup des tâches matérielles. Et par exemple, ceux qui s'occupent de musique ou de choses comme ça, ce sont aussi des diacres, des diaconesses qui exercent ce type de ministère. Donc, voilà, très rapidement ici, ce qu'était la structure de l'Église ancienne dans sa première période. Maintenant, il y a un tournant important et décisif, c'est la conversion de Corneille et des païens qui se trouvaient dans sa maison. Il faut dire que cette évolution n'aurait pas dû être véritablement nouvelle pour les apôtres, parce que à la fin de l'évangile de Matthieu, nous lisons que Jésus donne ce que nos frères anglo-saxons appellent la grande commission, c'est-à-dire l'ordre d'aller dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il est bien évident que, bon, c'est la première fois que Jésus dit cela, parce que pour le moment, avant sa mort et sa résurrection, son ministère était limité au seul peuple d'Israël, et donc tout change après la résurrection, et Jésus donne l'ordre à ses disciples donc d'aller dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle donc à toute la création, ça veut dire aux païens également. D'ailleurs, il le redit dans l'évangile de Luc, que c'est la grande nouveauté qui marque le temps de la fin, c'est que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. On trouve ça aussi dans le premier chapitre du livre des Actes que vous connaissez. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Il est bien évident qu'à partir du moment où Jésus donne cet ordre, eh bien, ça va complètement bouleverser et changer la structure de l'Église. Cette Église, qui était composée exclusivement de Juifs, va intégrer maintenant des païens. Et ces païens vont, comme nous l'avons dit hier, devenir au bout d'un temps majoritaires dans l'Église et par conséquent vont prendre le pouvoir. Il va y avoir donc paganisation de l'Église et puis marginalisation de l'élément juif qui se trouve au milieu d'elle, qui se trouve en son sein. Et ça, bien sûr, les apôtres en sont parfaitement conscients. Et c'est ainsi que va être rassemblé ce qu'on appelle le Conseil de Jérusalem, ou encore, si vous voulez employer une terminologie romaine, le Concile de Jérusalem, premier des conciles selon la conception des catholiques. Il y a dans ce domaine-là un certain nombre de points qu'il faut prendre en compte. C'était évidemment un gros problème pour l'Église ancienne que l'intégration de ces païens. Et finalement, c'était un problème aussi que connaissait le judaïsme de leur temps. Parce que, à cette époque-là, le paganisme classique, les vieilles religions païennes étaient en déclin total du monde romain. Et il y avait une soif d'une spiritualité plus juste. Il y avait une diaspora juive très importante, pratiquement dans toutes les villes importantes de l'Empire romain, il y avait une communauté juive, et cette communauté juive attirait énormément les non-juifs. Alors, selon une première conception du judaïsme, un païen, s'il voulait se tourner vers le Dieu d'Israël, n'avait d'autre solution que de se convertir au judaïsme. L'exemple le plus typique de cette démarche-là, c'est celui de Ruth, la Moabite, qui a dit « Ton Dieu sera mon Dieu, donc ton peuple sera mon peuple ». Et elle s'est intégrée pleinement au peuple d'Israël. Le problème, c'est qu'une des conditions pour pouvoir rejoindre le peuple d'Israël, c'était la circoncision. Et se faire circoncire quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ce n'est pas quelque chose d'évident. Et ça a rebuté énormément de mâles, disons, qui auraient souhaité justement se convertir au judaïsme. C'est une des raisons pour lesquelles il y avait un beaucoup plus grand nombre de femmes qui se convertissaient au judaïsme à cette période-là qu'il n'y avait d'hommes. Vous vous souvenez, par exemple, quand Paul arrive à Philippe, il se rend le Shabbat dans un lieu de culte, près d'une rivière, il n'y avait pas un minyan, où il n'y avait que des femmes. Parce que la communauté de ce lieu-là était très restreinte. Alors, finalement, un siècle avant Jésus à peu près, un rabbin qui s'appelle Hillel avait avait conçu quelque chose de tout à fait spécial, un statut spécial pour les non-juifs qui, tout en voulant s'approcher du peuple d'Israël, ne souhaitaient pas pour autant se convertir d'une manière totale au judaïsme. On appelle ça les fils de Noé. Et Hillel a constaté qu'il n'y a finalement qu'une seule alliance qui a été conclue entre Dieu et les païens, c'est l'alliance avec Noé. Et cette alliance avec Noé, elle repose sur sept principes, sept commandements, que l'on appelle pour cette raison les sept commandements noachiques jusqu'à aujourd'hui au sein du judaïsme. Évidemment, c'est la foi, d'abord la foi en un seul Dieu, le non-blasphème, le refus du meurtre, de l'adultère, du vol, la non-consommation du sang et le fait de se doter de cours de justice pour faire régner un minimum d'ordre dans la société. C'est ce qu'on appelle les sept lois noachiques. Et quand un païen donc voulait s'approcher du Dieu d'Israël, les rabbins ne lui imposaient que ces sept lois noachiques. En résultat de cette démarche, il avait le droit de participer à toute la vie juive, à la synagogue, aux fêtes, etc. Il pouvait, s'il voulait, manger cachère, etc., mais ça ne lui était pas imposé. Et par conséquent, il était exempt des 613 commandements auxquels, en principe, tout juif est astreint. Seulement, le problème, c'est que dans la mesure où ces gens-là, ces fils de Noé, n'avaient pas les mêmes obligations, ils n'avaient pas non plus les mêmes droits. Et ce faisant, ils étaient en état d'infériorité par rapport aux Juifs, qui étaient pleinement Juifs. Ils étaient donc dans un statut autre. Et finalement, c'est le problème qui se pose à l'Église ancienne. Trois écoles vont pouvoir s'affronter dans ce domaine-là. Une école rigoriste qui, justement, se dit « si on accepte les païens sans aucune restriction, eh bien, c'est non seulement, en fin de compte, la spécificité de notre vocation de juif qui est en cause, mais à la limite, ça peut être celle du peuple d'Israël tout entier. Par conséquent, il faut que les païens qui se tournent vers Jésus soient circoncis et deviennent juifs à part entière, qu'ils étudient la Torah, etc. etc. Et puis, il y avait une autre école qui pensait au commandement noachique. On s'est rapidement dirigé vers cette solution-là, à commencer par Jacques et par Pierre, et puis ensuite Paul, évidemment, qui est intervenu dans ce sens-là aussi. Et vous remarquerez que ce qu'on appelle le décret apostolique, qui termine le chapitre 15 du livre des Actes, reprend grosso modo les lois noachiques que j'ai évoquées. On n'évoque pas, par exemple, le monothéisme, le non-blasphème, des choses pareilles, parce que ça tombe sous le sens. Si ces gens-là sont convertis à Jésus, forcément, ils ne sont plus idolâtres et ils ne sont plus blasphémateurs. Bon, ça, ce n'est pas la peine de le rappeler. Par contre, on rappellera aux païens de s'abstenir de ce que le texte appelle la pornéga. Alors, pornéga, dans le sens que lui donne le Nouveau Testament dans ce texte, c'est toute forme de désordre sexuel, quel qu'il soit. C'était évidemment une des tares des païens. Les païens vivaient en général dans l'immoralité. Et c'était les rabbins prenaient grand soin, quand quelqu'un se convertissait, de veiller à ce qu'il ait mis sa vie en règle dans ces domaines-là. Donc on retrouve ça dans le décret apostolique. La non-consommation du sang. Et puis il y a un texte qui a été supprimé par les moines copistes du Moyen-Âge parce qu'ils faisaient trop juifs, mais qu'on retrouve dans les manuscrits les plus anciens et qui, comme le pensait le professeur Flusser, avait toute chance d'être authentique. Et ce texte était celui-ci, et qu'ils ne fassent pas aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'ils leur fassent. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le judaïsme la règle d'or de Hillel. Alors, il faut connaître cette petite anecdote qui nous rapporte qu'à cette époque-là, c'est-à-dire, disons, un petit siècle avant Jésus, il y avait déjà ce qu'on appelait les pères de rabbins. Ça veut dire les rabbins étaient toujours l'autorité suprême dans la religion d'Israël, étaient deux rabbins. Il y avait toujours ce qu'on appelle les ougotes en hébreu. Et il y avait donc une paire de rabbins à cette époque-là, parmi les premiers. L'un s'appelait Hillel et l'autre s'appelait Shammai. Shammai était un homme très dur, très rigoureux, très cassant, très carré. Et c'est en français du nom de ce personnage que vient le terme se chamailler. Et par contre, Hillel était complètement à l'opposé de ça. C'était un homme doux, pacifique, conciliant, essayant toujours d'arranger, etc. Et un beau matin, donc, vient vers Shammai un homme d'affaires, païen, qui lui dit ceci, « Je voudrais me convertir au judaïsme, mais comme je suis homme d'affaires, je n'ai pas le temps d'étudier. Je n'ai pas le temps d'étudier la Torah. Donc, je me convertis à une seule condition, c'est que tu m'enseignes toute la Torah pendant que je suis debout sur un pied. » Shammai lui dit, « Tu te fiches de moi, tu vas à la porte là-bas, tu la prends. » Notre homme s'en va et il se rend chez Hillel. Et il lui fait la même demande. Est-ce que tu peux m'enseigner toute la Torah pendant que je suis debout sur un pied? Hillel lui dit, rien de plus facile, mets-toi debout sur un pied. Et quand l'autre est debout sur son pied, Hillel lui dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aurais pas qu'il te fasse, c'est toute la Torah, le reste, ça ne sont que des commentaires. Et depuis ce temps-là, on appelle cette expression la règle d'or de Hillel. C'était donc la base de l'enseignement que l'on donnait aux païens, qui se tournaient vers le Dieu d'Israël dans le judaïsme, donc qui allaient devenir les fils de Noé. Et c'est intéressant de noter que l'Église ancienne a conservé cette règle d'or également en fonction des païens qui se tourneraient donc vers l'Évangile. Et donc, il y a eu ici une décision qui a été absolument révolutionnaire et qui allait encore beaucoup plus loin que cette réglementation de ce qu'on appelle les fils de Noé, comme je vous l'ai expliqué. C'était le fait que, contrairement à ce qu'on trouve dans le judaïsme, les païens donc pouvaient entrer dans l'Église avec un minimum qui permettait la communion avec les Juifs qui étaient en leur sein, mais ils étaient, par rapport à ces Juifs, dans un état de parfaite égalité avec eux. Ils n'étaient pas dans un statut d'infériorité, comme c'était le cas des fils de Noé, mais, comme nous l'avons vu hier, ils étaient dans un état de parfaite égalité avec les Juifs. Et ça, évidemment, c'était lourd de conséquences pour l'avenir, parce que, comme l'avait vu l'aile la plus extrémiste de l'Église de cette période, eh bien, ça allait impliquer la perte du leadership de la part de l'élément juif au profit des païens. Aussi longtemps que les douze ont subsisté, il y a eu donc un leadership juif, et notamment il y avait une importante minorité de juifs dans l'Église, et aujourd'hui on découvre de plus en plus combien l'Évangile avait eu un impact profond pendant toute la durée du premier siècle en Israël, notamment au travers de la découverte de très très nombreuses tombes judéo-chrétiennes, qui prouve donc qu'il y avait de très très nombreux judéo-chrétiens en Israël à cette période-là. Et Eusèbe de Césarée, qui est l'historien de l'histoire de l'Église ancienne, nous dit que jusqu'à Bar Corba, c'est-à-dire jusqu'à 135 après Jésus-Christ, les évêques de Jérusalem, la succession des évêques de Jérusalem, était une lignée de ce qu'il appelle des Hébreux fidèles. Donc l'Église de Jérusalem a été dirigée par des Juifs jusque, disons, presque la moitié du IIe siècle. Mais, disons, à partir de la disparition des apôtres, il y a un problème qui se pose, c'est justement la question du leadership dans l'Église. Les apôtres, alors, en principe, la structure d'Éphésiens 4 aurait dû subsister, et elle subsistera un peu, on le voit, mais finalement, elle va s'atténuer assez vite. Et nous allons avoir ici une nouvelle catégorie de leaders qui vont apparaître dans l'Église et qui vont être les évêques, mais non plus les évêques tels que le conçoit le Nouveau Testament, mais disons l'évêque tel qu'on le trouve dans la hiérarchie des églises historiques catholiques et orthodoxes. Ça veut dire des gens qui exercent une autorité pratiquement monarchique sur un ensemble d'églises qui finiront par constituer ce que l'on appelle un diocèse. Maintenant, ce qui est aussi un point très important de noter, c'est que ces évêques étaient pratiquement tous des non-juifs. Ça veut dire que, de fait, à partir du début du IIe siècle, le leadership de l'Église échappe aux juifs et passe entre la main des non-juifs, entre la main des païens. Ce qui est aussi caractéristique, c'est que ces païens-là étaient souvent des philosophes grecs, d'anciens philosophes grecs, qui avaient donc aussi un certain nombre de préjugés antisémites, comme c'était le cas pour les philosophes grecs et romains de cette période-là. Citons parmi ces gens-là essentiellement Ignace d'Antioche, qui donc a été le premier qui a donc formulé d'une manière explicite la théorie, la doctrine justement de cet épiscopat monarchique. Disons Ignace d'Antioche a fini martyr, il a été mangé par les lions dans les arènes de Rome, donc c'est quelqu'un d'éminemment respectable, mais disons c'est quelqu'un qui a fait dévier l'Église d'une manière assez considérable, relégué en cela qu'il a été par d'autres qui étaient pratiquement ses contemporains et ses successeurs. Et finalement, les philosophes grecs, qui sont devenus les évêques, étaient des gens qui ont cherché à évangéliser l'intelligentsia romaine. À cette époque-là, début du IIe siècle, le christianisme était considéré par l'intelligentsia romaine comme ce que Tacite appellera, par exemple, une grossière superstition. Ça veut dire une religion valable pour les esclaves. C'était d'ailleurs essentiellement les esclaves, les petites gens de basse extraction qui composaient la majorité de l'Église à cette période. Donc l'Église, les chrétiens étaient méprisés parce que c'était justement des gens sans instruction. Et les pères de l'Église, on a commencé à les appeler de cette manière-là à cette période, les évêques, donc les pères de l'Église, ont eu à cœur d'évangéliser leur père, mais P-A-I-R-S cette fois-ci, pas les pères comme on fête aujourd'hui à l'occasion de la fête des pères, mais les pères P-A-I-R-S, ça veut dire leurs égaux, ceux qui étaient leurs semblables. Et ils ont voulu démontrer que contrairement à l'opinion généralement répandue, le christianisme n'était pas une grossière superstition, mais était parfaitement cohérent avec ce que l'Antiquité gréco-romaine avait produit de mieux, à savoir la philosophie d'Aristote et de Platon. Et pour ce faire, ils ont coupé le christianisme de ses racines juives, de ses origines juives, et de ce fait, le judaïsme a cessé à partir de cette période d'être la préparation évangélica, c'est-à-dire la préparation à l'évangile, et c'est la philosophie grecque qui est devenue la véritable préparation évangélica. Ils ont donc coupé le christianisme de ses racines juives pour le brancher sur des racines grecques. Et de ce fait, le christianisme est devenu une espèce de philosophie, un mélange de philosophie et de théologie. C'est comme ça qu'est née la théologie. Et le christianisme que nous avons reçu, vous et moi, vraisemblablement, nous l'avons reçu de cette manière-là, sans même nous en rendre compte, par le biais des pères de l'Église, parce que les réformateurs eux-mêmes ont été conditionnés par les pères de l'Église et ils n'ont pas remis en question cette origine-là. Ce qui fait que même dans nos églises évangéliques, l'Évangile nous est parvenu par le biais de ce qu'a été la tradition des pères de l'Église et non pas par l'intermédiaire de la tradition d'Israël. Et ça a eu des conséquences très graves. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a été amené à considérer le judaïsme d'une manière négative. Jusqu'alors, ce n'était pas le cas, bien sûr, puisqu'on était finalement branché sur l'olivier d'Israël, greffé sur l'olivier d'Israël. Mais à partir d'Ignace d'Antioche en particulier, il va y avoir un tournant. Et on va faire une lecture négative de la Bible, à la fois de l'Écriture et du Nouveau Testament. Et on va le faire de deux manières. D'abord par une globalisation et ensuite par l'allégorisation. Globalisation d'abord, on entendra parler par exemple de pharisiens qui sont hypocrites quand on lit les évangiles. Tous les pharisiens n'étaient pas hypocrites. Il faut d'abord préciser ça. Paul était pharisien et avant sa conversion, c'était un fichu bonhomme. Et il le reconnaît, il était tout ce qu'on voudra, Paul. Mais une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'avoir été hypocrite. Dans son égarement, il était sincère. Donc, tous les pharisiens n'étaient pas hypocrites. Nicodème n'était pas hypocrite, Joseph d'Arimathée n'était pas hypocrite, Gamaliel n'était pas hypocrite. Bon. Mais, à partir d'Ignace d'Antioche, on a considéré que non seulement tous les pharisiens étaient hypocrites, mais que tous les juifs étaient des pharisiens, et par conséquent que tous les juifs étaient des hypocrites. Et cette idée, elle a fait florès au Moyen-Âge, et on la retrouve jusqu'à nos jours, où on considère même les sionistes aujourd'hui en Israël comme étant justement un ramassis d'hypocrites. Bon, autre exemple, Judas Iscariote, le traître. Il y a un seul Judas dans toute l'histoire du Nouveau Testament. Mais à partir d'Ignace d'Antioche, on a considéré que Judas Iscariote, était le prototype de tous les Juifs et que tous les Juifs étaient potentiellement des traîtres. Tous les Juifs étaient potentiellement des assassins de Jésus, des ennemis de Jésus et par conséquent, un peuple maudit. Et on a commencé à déverser ces malédictions sur le peuple d'Israël, que son sang soit sur nous et sur nos enfants, alors que ça ne concerne que deux générations, et par conséquent, l'idée que le peuple juif était un peuple maudit. Et sont nés à ce moment-là la théologie de la substitution, je crois que vous avez déjà étudié ça, donc je n'y reviendrai pas. Vous avez certainement aussi entendu parler de l'accusation de crime de déicide, à savoir que le peuple juif tout entier était responsable de la mort de Jésus. Et évidemment, Jésus étant le Fils de Dieu, étant d'essence et de nature divine, les Juifs avaient tué Dieu. Est-ce qu'on peut imaginer crime plus abominable que celui-là? Tuer Dieu, on ne peut pas faire pire. Donc le peuple juif est le pire peuple de la terre et il mérite d'être éternellement maudit. Et c'est la raison pour laquelle les églises historiques ont le plus grand mal aujourd'hui à admettre que la résurrection de l'État d'Israël est quelque chose qui entre dans le plan de Dieu, puisque selon leur théologie, consciente ou inconsciente, les Juifs doivent rester maudits jusqu'à la fin des temps. On a considéré aussi, alors, donc l'allégorisation, ça j'en ai déjà parlé hier, toutes les prophéties positives étaient pour Israël, étaient pour l'Église, et toutes les malédictions étaient pour Israël. Donc ça, je n'y reviens pas. J'en ai aussi parlé hier. Mais il y avait aussi une autre idée qui est née avec Ignace d'Antioche. C'était celle que la loi des Juifs, la Torah, était quelque chose de négatif. D'ailleurs, Jésus avait aboli la Torah, Paul encore plus, si bien qu'on n'était plus sous la loi, mais on était sous la grâce. Seulement, Dieu avait donné à ce peuple des lois, pour justement, parce que c'était un peuple particulièrement perverti. Les Juifs sont le plus pervertis de tous les autres peuples. Hitler avait cette idée aussi. Et on la retrouve aussi aujourd'hui chez les Arabes musulmans. Et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu avait donné, par exemple, des lois alimentaires. Pourquoi ne pas manger ceci et ne pas manger cela? Parce que les Juifs sont un peuple de gloutons, vous comprenez. Et Dieu voulait ici fustiger ce caractère glouton qui est le leur. Pourquoi la circoncision? Parce que le peuple d'Israël est un peuple sexuellement perverti. Alors Dieu a voulu les juger à cet endroit où justement ce qui est un trait de leur caractère était particulièrement souligné. Et on continue comme ça. Si bien que on trouve Israël comme étant le peuple charnel, l'Israël selon la chair, par opposition à l'Église, l'Israël selon l'Esprit. Et par conséquent, il y a eu, au début du IIe siècle, une déjudaïsation de l'Église. L'Église s'est détournée de tout ce qui était les coutumes juives. On a commencé à pratiquer le dimanche à la place du Shabbat, etc. On en a parlé ça aussi hier. Et bien d'autres choses du même type. Je parlerai dans un moment de ce qu'on appelle la querelle des quatre décuments. C'est un peu du même type. Et ce faisant, donc, on est entré dans la liberté. On était donc dans l'esprit, n'est-ce pas, l'esprit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il faut le culte en esprit, en vérité, non pas le vieux culte rituel du peuple juif, en oubliant que quand Jésus avait dit cette parole, il revenait d'une cérémonie juive qui était la Pâque, et que dans la tradition juive, il y a cette parole, si quand tu rentres dans le temple terrestre, que ce soit comme si ton âme entrait dans le temple céleste. Donc c'est un petit peu la même pensée que celle de Jésus. Le culte en esprit, en vérité, n'est pas en opposition avec le culte qui se pratiquait dans le temple ou qui se pratiquait dans la synagogue. Mais pour les pères de l'Église, donc c'était ainsi. Et un homme comme Ignace d'Antioche, par exemple, considérait que son christianisme impliquait une dose importante d'anti-judaïsme théologique. On n'en est pas encore à la haine du juif en soi, mais disons, pour des raisons théologiques, le juif est donc rejeté et on ne peut pas être un bon chrétien si l'on n'a pas ces sentiments-là. Il y a eu donc cette déjudaïsation de l'Église du IIe siècle qui a abouti finalement à une véritable anarchie dans l'Église. Parce que l'être humain est ainsi fait qu'il ne peut pas se passer de tradition. Et dans nos églises, parfois aussi, on se vante de ne pas avoir de tradition. C'est particulièrement faux. Remarquez une chose, vous vous asseyez presque toujours à la même place. C'est une tradition. Et si la grand-mère une telle a le malheur de prendre la place de la grand-mère autre, c'est un crépage de chignon maison qui a lieu. Donc il y a des traditions, qu'on le veuille ou non. Parce que l'être humain a besoin de points de repère. Et sinon, eh bien, ce sont des traditions qui ne sont pas bonnes qui s'instaurent. Donc, c'est une véritable anarchie, et c'est ce qui s'est passé dans l'Église du début du IIe siècle. Alors, les pères de l'Église ont corrigé le tir. Ils ont dit, eh bien, il faut réintroduire des traditions. Et ces traditions, eh bien, ils sont allés les chercher où ? Au sein du peuple d'Israël. Mais ils les ont complètement transformées, ces traditions-là. Ça veut dire que le nouvel Israël, selon l'Esprit, était en réalité un autre Israël, un Israël différent. Et c'est ainsi que le Shabbat est transféré au dimanche. La fête de Hanouka, qui se célèbre en décembre, est devenue la fête de la nativité de Jésus, donc Noël. Ça se célèbre à peu près à la même période. Et on a aussi voulu découpler la Pâque juive des Pâques chrétiennes, puisque vous savez que Pâques, pour les Juifs, c'est singulier, et pour les chrétiens, c'est toujours pluriel. Pâques était, dans l'Église ancienne, la plus grande des fêtes, et elle se célébrait à l'époque en même temps que les Juifs, c'est-à-dire le 14e jour du mois de Nissan. Et l'Église d'Occident, c'est-à-dire l'Église latine, contrairement à l'Église grecque, c'est-à-dire l'Église d'Orient, à partir du 2e siècle, a commencé à célébrer les Pâques, non pas le 14e jour de Nissan, mais le dimanche qui suivait la première lune de Nissan. Donc deux pratiques tout à fait différentes en Occident et en Orient. Et pendant plusieurs siècles, on a assisté à ce qu'on appelait la querelle des quatre décuments, ça veut dire de ceux qui célébraient la Pâque, qui célébraient les Pâques en même temps que les Juifs, donc le 14e jour du mois de Nissan, et puis les autres. Et finalement, c'est Constantin qui, au Concile de Nicée, a tranché le débat et a imposé la fête de Pâques selon la coutume occidentale, c'est-à-dire la coutume latine, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Ce qui fait que les Pâques chrétiennes ne correspondent en principe pratiquement jamais avec la Pâque juive. Et s'il y a donc décalage de la fête de Pâques, il y a aussi décalage de la fête de Pentecôte. Et on retrouve donc ici ce hiatus. Et disons que un tournant important aussi a été 70, la ruine de Jérusalem. La ruine de Jérusalem a marqué la fuite d'une partie de l'église de Jérusalem, profitant d'une accalmie qui s'était produite dans le siège pendant l'année 68, quand Néron est mort à Rome. Beaucoup de chrétiens de Jérusalem, de chrétiens juifs, ont quitté la ville et se sont réfugiés en Transjordanie à Pella. Ça a été la fin de l'hégémonie de l'église juive. À partir de ce moment-là, Jérusalem est resté un des cinq grands patriarcats de l'Église ancienne, mais, disons, second par rapport aux deux grands patriarcats qui ont émergé à cette période-là, à savoir Constantinople et Rome. Et donc ça a été aussi une évolution extrêmement négative. Il y avait aussi, à cette période-là, une détérioration de la situation avec les Juifs. Les Juifs chrétiens étaient très nombreux après la chute du Temple de Jérusalem, en particulier en Galilée. Et là, autant que l'on sache, dans l'architecture, l'archéologie, etc., ils avaient de bons rapports avec les autres Juifs. Et à partir de cette période, les relations vont se dégrader. Et est introduit, alors il y avait par exemple, je vous citais un cas, un rabbin qui s'appelait Eliezer ben Hourkados, qui vivait au IIe siècle et qui, dont la femme était tombée malade, gravement malade. Et il avait demandé à un juif chrétien, on appelait ça les minim à cette période, Maminé Yeshua Notzri, croyant dans Jésus le Nazaréen, il avait demandé à un min qui s'appelait Yaakov de venir prier pour sa femme. Et cette femme avait été guérie au nom, par la prière au nom de Jésus. Et ensuite, il a été chicané et par les Romains et par les autres Juifs à la fin de cette période parce qu'il avait osé demander à un, que l'on prie pour sa femme au nom de Jésus. Donc, détérioration des relations et introduction d'une malédiction qui est répétée dans la synagogue à l'endroit de ce qu'on appelle les minimes, c'est-à-dire les croyants en Jésus. Et cette malédiction a provoqué donc cette cassure entre l'Église juive et puis les non-juifs. Et c'est ainsi que nous avons, par exemple, un texte qui est un texte fondamental qu'on appelle le dialogue de Justin avec le juif Tryphon. C'est la première disputation, une controverse. Est-ce que c'est fictif? Est-ce que c'est réel? On n'en sait rien. On ne connaît pas de rabbin qui s'appelait Tryphon. On en connaît par contre un qui s'appelait Tarphon. Peut-être s'agit-il lui-même. On ne sait pas. On discute, les spécialistes discutent de cette affaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Justin dira à ce Tryphon que finalement, les Écritures ont été confiées à Israël à seule fin qu'Israël les communique aux chrétiens. Ce ne sont plus vos Écritures, ce sont les nôtres. Ça veut dire Israël est dépouillé de ses propres Écritures. Alors vous voyez ici combien combien profond est le divorce qui se crée à cette période-là entre donc juifs et juifs chrétiens et juifs tout court et finalement l'Église et la synagogue dans son ensemble. Et c'est là que très rapidement, parce que mon temps passe, que nous arrivons au Concile de Nicée. Concile de Nicée avec Constantin, qui donc s'est en principe converti au christianisme et qui doit régler un certain nombre de controverses théologiques au sujet de la divinité de Jésus. Déjà, cette question avait surgi au sein du judaïsme messianique dès le IIe siècle entre deux groupes qui étaient opposés, qu'on appelait les Ébionites et les Nazaréens. Les Ébionites étaient des gens qui se voulaient juifs et chrétiens, qui respectaient toutes les lois juives, toute la Torah d'une manière impeccable, mais qui ne considéraient pas Jésus, bien qu'ils le considéraient comme le Messie, ils ne le considéraient pas comme le Fils de Dieu. Par contre, les Nazaréens étaient aussi des juifs pratiquants, mais croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. Et finalement, les non-juifs ont été entraînés dans cette querelle, c'est ce qu'on appelle la querelle arienne, du nom d'Arius, un des évêques qui professait cette hérésie-là, que l'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui périodiquement et cycliquement. Et par conséquent, Constantin devait résoudre cette question. Il a été élaboré donc ce qu'on appelle le fameux symbole de Nicée-Constantinople, qui est un texte finalement très intéressant. Parce que bien qu'il soit écrit en grec, avec des concepts grecs, et il a été en fait inspiré par la théologie juive des Nazaréens. Donc c'était prendre le contre-pied des Ébionites. Ce qui fait que c'est un texte de référence, et un texte, moi je suis particulièrement attaché à ce texte, d'une manière tout à fait personnelle. Il faut savoir d'ailleurs que la plupart des évêques qui étaient présents à Nicée étaient des évêques grecs, il n'y avait que deux latins, tout et pour tout. Donc c'est quelque chose qui était essentiellement marqué par la théologie grecque. Mais par contre, à côté de ce texte extrêmement positif qui a été publié à cette période-là, il y a eu une mise au ban du peuple juif, mise au ban de l'Empire par l'Empereur. La question du dimanche a été définitivement tranchée, interdiction aux chrétiens de célébrer le culte le samedi, donc le dimanche obligatoire. La querelle des quatre documents de la date de Pâques a été définitivement fixée. Et puis, donc, interdiction aux chrétiens de fréquenter les juifs en quoi que ce soit. Et à cette époque-là, l'évêque de Constantinople, qui s'appelait Jean Chrysostone, a prêché 8 semaines d'affilée, 8 dimanches d'affilée, 8 sermons contre les juifs. Et comme le disait mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, je n'oserais pas lire à mes étudiants les invectives que Chrysostome a distillées contre les juifs. Les synagogues sont un repère de démons, il vaut mieux aller dans un lupanar que dans une synagogue. Enfin voilà, le ton, on pourrait multiplier les exemples qui montrent à quel point justement il y avait cette haine des juifs chez les chrétiens à partir de cette période-là. Et donc il y a eu ici cette cassure qui est aussi caractérisée par l'essor des pèlerinages. À partir de Constantin, Jérusalem, qui était devenue une ville païenne, Aelia Capitolina, redevient une ville sainte, une ville chrétienne cette fois-ci, et devient le centre d'un pèlerinage. C'est Hélène, la mère de Constantin, qui va initier les premiers pèlerinages. Elle est la première pèlerine, et sur ses pas vont venir toutes sortes de pèlerins. C'est intéressant parce que beaucoup de ces pèlerins nous ont laissé des rapports de leur voyage. Ils nous racontent ce qu'ils ont vu. Et notamment, ils nous disent que parmi les étapes incontournables du pèlerinage, il y avait la visite à ce qu'ils appellent la Mater Ecclesiae, ça veut dire la mère de toutes les églises, qui était la chambre haute dans laquelle était née l'église le jour de la Pentecôte. Et ils nous disent que dans cet édifice qui existait de leur temps, qui existe encore de nos jours d'ailleurs, il y avait une communauté judéo-chrétienne qui se rassemblait et qui lisait la Bible en hébreu, qui priait en hébreu, qui gardait le Shabbat, etc. Et il les visitait, ça ne posait pas de problème. Et puis, dans la deuxième période, ça veut dire à partir du 5e, 6e siècle, ces mêmes pèlerins nous disent qu'ils évitaient soigneusement d'aller visiter cette église-là parce que c'était des hérétiques. Des gens qui prient en hébreu, vous comprenez, c'est extrêmement grave. Des gens qui lisent la Bible en hébreu, c'est aussi extrêmement grave. Des gens qui se rassemblent le jour du Shabbat et pas le dimanche, c'est extrêmement grave. Par conséquent, dans la liste des hérésies, les Nazaréens, la liste qui est tenue par les autorités romaines, les Nazaréens sont considérés comme une hérésie, comme une secte, ce qu'ils n'étaient pas. Les Ébionites, oui, mais pas les Nazaréens. Alors, je termine. J'ai brossé très très rapidement, évidemment, des choses sur lesquelles on aurait pu s'arrêter très longuement, puisque j'ai mis un an pour faire ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais voyez-vous, nous sommes aujourd'hui à un croisement très important de l'histoire de l'Église. Il y a eu donc cette déjudaïsation dont j'ai parlé, qui s'est accomplie le long des siècles. Et aujourd'hui, avec la renaissance de l'État d'Israël, avec le retour du peuple juif dans sa patrie, il y a chez beaucoup de chrétiens cette prise de conscience que nos racines ne sont pas en Grèce, ne sont pas à Athènes, mais qu'elles sont à Jérusalem. Et que par conséquent, c'est là qu'il nous faut revenir. Et en quelque sorte, se couper de cette influence de la philosophie grecque qui a marqué le christianisme pendant près de 20 siècles et revenir au judaïsme comme préparatio evangelica. Bien évidemment, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier, c'est une démarche très difficile et pleine d'embûches, parce que l'on peut tomber dans un excès ou dans un autre très facilement. On peut folkloriser, on peut devenir, disons, on peut judaïser, on peut devenir israélolâtre, et disons, il y a toutes sortes de pièges dans lesquels on risque de tomber. Et c'est pourquoi ce sont des démarches qui doivent être effectuées avec beaucoup de prudence et finalement sans précipitation aucune. C'est des choses qui doivent nous amener petit à petit, non pas à repratiquer des coutumes juives, comme j'ai eu l'occasion de le dire, mais tout simplement à retrouver nos racines, savoir d'où nous venons et comprendre d'où nous venons. Et ça, évidemment, ça peut effectivement redonner une sève nouvelle à nos églises et un élan nouveau aussi. C'est, je pense, une des dernières découvertes que Dieu veut que nous fassions avant le retour de Jésus, qui parachèvera, à mon sens, cette recherche et cette époque, quand il viendra comme le roi d'Israël, celui qui s'assiera sur le trône de David, comme nous l'avons dit, pour régner sur la maison d'Israël à perpétuité. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement cet après-midi.
On va vous laisser quelques questions à poser. Moi, j'ai juste une précision, peut-être. Ce que j'ai compris, c'est que quand on parle de grec, c'est la partie orthodoxe. Quand on parle de latin, Rome,
ça dépend.
La partie occidentale.
Pas forcément, oui. Pas forcément. Bon, quand je parle de la philosophie grecque, ce n'était pas quelque chose qui était spécifique à l'Église d'Orient, c'était quelque chose aussi qui était passé dans l'Église d'Occident. Parce qu'il faut savoir que l'orthodoxie est plus ancienne que le catholicisme. Et nous qui vivons en milieu essentiellement catholique, nous avons plutôt tendance à faire porter au catholicisme le chapeau de toutes les déviations possibles. Or, il ne faut pas oublier que les premières déviations ont eu lieu dans les églises grecques et qu'ensuite, c'est passé en Occident, mais au départ, c'est venu de l'église grecque. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que, autrement, par exemple, Constantin n'était pas catholique. Constantin était orthodoxe. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Dans sa théologie, etc. Et petit à petit, ces mêmes hérésies, évidemment, sont passées en Occident, mais disons, c'est né essentiellement dans l'Église grecque.
Est-ce que ça veut dire que l'Église orthodoxe serait plus proche de la vérité que l'Église catholique ?
Oui, sur certains aspects, c'est clair.
Lesquels, par exemple, le Saint-Esprit ?
Ils sont les champions de la vision trinitaire. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ils sont antipapistes, très fortement antipapistes. Et pour eux, l'institution papale est une hérésie majeure. Bon, on peut le reprocher en tant qu'évangélique, leurs icônes. Mais les icônes, disons, à mon sens, ce serait quelque chose de moins grave que les statues de l'Église romaine. Parce qu'une icône, c'est une image, tandis que la statue, c'est dans trois dimensions. Donc c'est beaucoup plus, beaucoup plus séduisant que l'icône. Et il y a un autre aspect aussi deux aspects de la théologie orthodoxe qui sont intéressants. Les premiers, c'est l'importance, justement, comme vous disiez à un instant, du Saint-Esprit. Et il ne faut pas oublier que le réveil de Pentecôte et le réveil charismatique sont venus des églises orthodoxes. C'était parce que dans l'église orthodoxe, il y a toujours eu l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, pas généralisé, mais chez ce qu'on appelait les starets, disons les certains nombres de moines, qui faisaient l'expérience des expériences de type charismatique, au point, et pas seulement des clercs, mais également des laïcs. Et au point que dans la théologie orthodoxe, encore aujourd'hui, un laïc qui a reçu une révélation de Dieu peut interpeller un évêque. Il a l'autorité d'interpeller un évêque au nom de cette révélation, si elle est authentique, bien sûr, si elle est une véritable révélation de Dieu. Et le réveil de Pentecôte est venu donc en Arménie à la fin du XIXe siècle, chez la famille Sakarian. Vous connaissez peut-être cette histoire. Et à partir de prophètes qui sont venus de Russie. Et ces prophètes étaient des gens qui appartenaient à l'Église orthodoxe. Et c'est eux qui ont donc introduit le baptême dans le Saint-Esprit en Arménie et de là aux États-Unis, etc., et puis finalement dans le monde entier. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. C'est très intéressant de noter ça dans l'Église orthodoxe. Et enfin, l'Église orthodoxe, c'est une Église qui a privilégié beaucoup plus la résurrection que la crucifixion, contrairement à l'Église romaine. Et je me souviens de ce frère orthodoxe qui nous avait interpellé en disant « Vous, les latins ?» Il m'avait traité de latin, ça ne m'avait pas plu beaucoup du tout. Mais c'est comme ça. Et il avait dit « Vous, les latins, vous insistez trop sur la mort de Jésus et pas assez sur la résurrection. » Et c'est vrai, quand on est dans une église orthodoxe, par exemple, c'est beaucoup plus lumineux qu'une église catholique. Et l'icône, je ne suis pas pour les icônes du tout, hein, je suis à 300% contre. Mais disons, quand on examine objectivement les choses, par exemple, si vous visitez des églises orthodoxes, mettons en Grèce, en Russie ou dans des endroits pareils, et que vous les comparez avec des églises catholiques, par exemple, en Espagne ou au Portugal, dans les pays hispaniques, c'est le jour et la nuit. Dans les églises hispaniques, vous avez des Christ grimaçant de douleur, vous avez des vierges avec le cœur transpercé par des épées, etc. Enfin, elles aussi grimaçantes de douleur. Ça veut dire qu'il y a une glorification dans ces églises-là de la souffrance et de la mort. C'est absolument morbide. Et ça, vous ne trouvez pas ça dans les églises orthodoxes. Et même, par exemple, les icônes qui représentent le Christ en croix, eh bien, elles ont la lumière taborique. Ça veut dire que la croix n'est pas un lieu de supplice, c'est un trône. C'est le trône et qui par lequel passe la résurrection. Et donc, vous avez toujours, dans les représentations de la crucifixion, vous avez toujours cette lumière de la résurrection qui est associée avec la mort de Jésus. Et donc, ça, c'est... Bon, ceci dit, bien sûr... Maintenant, ce qui est vrai, nous en avons remarqué, nous, à la fois en Grèce et en Russie, c'est le fait qu'il y a une ferveur, il y a une véritable réveil au sein des églises orthodoxes, au point de vue de la ferveur. Je me souviens, on était à Moscou peu de temps après la chute du mur de Berlin, au moment où ce qu'on appelait la chapelle de l'université, le campus de l'université de Moscou, avait été rendu au culte. Elle était un musée pendant la période communiste, et là, elle venait juste d'être rendue au culte orthodoxe. Et c'était un jour de semaine, un après-midi vers 5 heures. Donc, cette église était pleine de jeunes gens, de jeunes étudiants, qui chantaient en vieux slavon, donc en vieux russe, mais avec une ferveur qui était absolument époustouflante. Et nous ne comprenions pas un mot, mais on sentait la présence de l'Esprit de Dieu. Il y a vraiment quelque chose... C'est pas du tout comparable avec nos pays déchristianisés. Là-bas, il y a plutôt une recristianisation qui est en cours.
Oui. J'ai aussi une question. Il y a des pasteurs qui disent que Paul s'est trompé à Athènes parce qu'il était imbu de la philosophie grecque et parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de résultats dans le discours d'Athènes. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, je ne crois pas. Non, les Grecs étaient allergiques et ils le sont encore. Disons, à l'idée de la... Enfin, les Grecs philosophes, quoi, les philosophes, à l'idée de la résurrection, pour la raison que j'ai dite ce matin, parce qu'il y a une idée que la matière, c'est mauvais, et que seul l'esprit est important. Donc, quand on meurt, comme le disait Platon, on sort de cette enveloppe d'argile qu'est le corps, pour rejoindre le monde des purs esprits, pourquoi on reviendrait dans un corps matériel qui a été la cause de tous nos malheurs et dont on vient d'être délivré par la mort. Donc, pour eux, la résurrection, c'était quelque chose d'impensable, quoi. Mais ça, c'était évidemment le centre, comme le disait le professeur Flusser, c'est le centre de la foi juive et de la foi chrétienne, la résurrection.
Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui. En parlant de l'OSS... Pourquoi à Moscou, ils
ne
voient pas bien les églises orthodoxes et pas les églises chrétiennes?
Ah, ben ça, parce que ça fait partie de la tradition russe. Et là, c'est vrai qu'actuellement, les églises orthodoxes, comme en Grèce aussi d'ailleurs, ont tendance à persécuter les évangéliques. C'est leur terrain de chasse. Et oui, ça, c'est un aspect négatif, très négatif.
D'autres questions?
Oui.
La
quoi, là? Qu'est-ce que représente Jérusalem céleste?
Saint-Augustin, tu fais référence à Saint-Augustin?
Ah. Oui, à l'Apocalypse, quoi. Disons que c'est la récapitulation de l'histoire humaine. Ça veut dire que Dieu laisse l'homme libre. Et puis finalement, il prend dans l'histoire humaine ce qui lui semble important pour construire la nouvelle Jérusalem, la terre nouvelle. Or, Jérusalem, l'avons vu, c'est le résumé de toute l'histoire humaine. Jérusalem, c'est une ville qui existe depuis 4000 ans. Ça veut dire qu'il a vu finalement toute l'histoire humaine se dérouler en son sein, que ce soit les croisés, que ce soit les Anglais, que ce soit, enfin disons, toute l'histoire humaine à voir avec l'histoire de Jérusalem. Et par conséquent, la Nouvelle Jérusalem, c'est la récapitulation de toute cette histoire humaine par Dieu pour l'amener à la rédemption totale, quoi.
Dans la description que vous avez faite de la Nouvelle Jérusalem, vous nous avez dit qu'il y a 12 portes pour entrer, avec le nom de Dieu, je vais vous apporter aussi les esprits d'Israël. En quelque sorte, ça pourrait dire que, on passait par l'une des portes pour entrer à la Nouvelle Jérusalem.
Oui, mais les portes sont toujours ouvertes.
Oui, j'ai bien compris. Je veux dire, comme le nom, je veux dire, ça peut nous symboliser que, par exemple, quelqu'un qui est vraiment antisémite, en ne passant pas par un des noms des tribus, ne peut pas rentrer.
Ah, bah non, bah c'est sûr. Tout le monde ne peut pas rentrer, bien que les portes soient ouvertes, tout le monde ne peut pas rentrer, ça c'est clair. Dehors, les chiens, les impudiques, les profanes, les, etc.
Il y a les portes, mais il y a le nom, ça vous symbolise aussi, l'antisémite.
Ah bah oui, bah bien sûr. Non, non. Ah bah bien sûr, bien sûr. Oui. Oui.
Comment le clerc de l'Église ne peut pas étudier l'Épître romain par rapport à l'Église de la Bible ?
Pardon, parlez plus fort. Mais vous pouvez faire la même question en ce qui concerne les réformateurs. Pourquoi, par exemple, Luther, quand il a commenté l'Épître aux Romains, s'est bien gardé de commenter les trois chapitres 9, 10 et 11 ? Parce que les sentiments antisémites étaient tellement forts que, bien ma foi, on a écarté cet enseignement de l'apôtre Paul. Oui ?
J'ai une petite question concernant la venue de Jésus, il y a une évolution de la perception de la loi qui n'est pas abolie, mais qui est moins interdit pour nous. Mais je ne comprends pas les interdits liés au sang. On dit qu'il faut s'abstenir du sang, et aussi dans l'Ancien Testament, il y a une liste d'interdits liés au sang. Ça,
alors, c'était une condition pour que la communion de table soit possible entre juifs et non-juifs. Les juifs chrétiens de cette période-là, qu'on le voit par exemple dans l'incident d'Antioche, gardaient strictement les commandements, la cache-route, etc. Et de fait, pour un juif, la consommation du sang, c'est la chose la plus abominable qu'on puisse faire. Et on n'avait pas de communion de table avec des noms. Des non-juifs, parce que justement les non-juifs ne respectaient pas ça. Alors finalement les apôtres vont imposer aux non-juifs, disons, le minimum qui va permettre justement qu'il ne soit pas une pierre d'achoppement pour leurs frères juifs, donc la non-consommation du sang. Et finalement ce décret apostolique, il a été en vigueur dans l'Église ancienne jusqu'au 5e siècle grosso modo, c'est-à-dire jusqu'à Augustin. Et c'est Augustin qui l'a complètement aboli. Ça veut dire que ça a été le dernier lien avec le judaïsme qui a été brisé.
Et du coup, dans l'Ancien Testament, quel est l'esprit de cette interdiction autour du sang ?
Pardon ?
Et dans l'Ancien Testament ?
Oui. Ah ben oui, il y a ça, bien sûr. C'est tiré de là. Si les Juifs le font, c'est parce que c'est écrit dans l'Écriture.
Non, mais demande pourquoi est-ce que l'Ancien Testament dit qu'il ne faut pas...
Ah oui, ben ça, déjà, on trouve ça aussi dans les lois noachiques. Quand Dieu, jusqu'à nos déluges, l'homme était végétarien. Et à partir du déluge, Dieu autorise l'homme à consommer la chair des animaux. Mais au préalable, après les avoir vidés de leur sang. Parce que la vie est dans le sang, et c'est par un souci d'humanité pour s'assurer qu'avant de le manger, l'animal est bien mort. Quand il est vidé de son sang, on est sûr qu'il est mort. Et donc, c'est ça, c'est une coutume encore aujourd'hui chez les Juifs. La shrita, c'est-à-dire l'abattage rituel, a pour but de vider en l'espace de quelques secondes l'animal de l'essentiel de son sang. S'assurer qu'il est bien mort, et à ce moment-là, on peut le consommer.
Mais Jésus, il a choqué quand il a dit il faut manger le sang. Oui. C'est là qu'il est.
Manger le. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Là, c'était une provocation voulue de sa part.
Et toutes les lois qui étaient autour de ne pas toucher du sang, on est impur jusqu'au soir, etc.
Oui.
C'est lié uniquement à l'hygiène.
Ah, c'est d'où il y a.
À l'hygiène.
Non, c'est. C'est un peu, si vous voulez. Oui, un peu. Mais si vous voulez, c'est surtout lié à la vocation, justement, du peuple d'Israël. Ça veut dire est impur. L'impureté suprême pour la Bible, c'est la mort. Donc, tout ce qui touche à la mort souille, en quelque sorte, et empêche que l'on s'approche du sanctuaire de Dieu. Et comme le peuple d'Israël est un peuple de prêtres, il doit s'abstenir de tout ce qui est impur. Et de fait, disons, un écoulement de sang est susceptible d'aboutir à la mort. Donc, justement, celui qui est victime ou celle qui est victime d'un écoulement de sang pour quelque raison que ce soit, eh bien, se trouve dans un état d'impureté et ne peut pas s'approcher de Dieu aussi longtemps qu'il a cette hémorragie-là.
Et pourquoi certains chrétiens n'ont pas de transfusion de sang ? Parce qu'ils pensent que.
Parce que là, ils sont bêtes. Tout simplement. Non, là, c'est. Au contraire, si vous voulez, toutes les lois bibliques, elles ont pour but la vie. Une transfusion de sang, ça, c'est pour sauver une vie. Alors, bien sûr que c'est quelque chose de parfaitement légitime.
Excusez-moi. J'ai une question. Vous avez, me semble-t-il, mentionné le texte de référence dans le concile, me semble-t-il aussi.
Dans le
concile de Nicée, c'est quoi en gros
C'est ce qu'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople.
Je crois donc c'est confession de foi.
Confession de foi, oui. C'est, si vous voulez, c'est l'essentiel de la doctrine chrétienne qui est résumée. Et chaque mot est pesé, chaque mot est tiré de l'Écriture. Et par conséquent, là, on est vraiment dans un terrain qui, finalement, c'est le texte qui est après la Bible et doit être le texte de référence de tous les chrétiens.
Disons normalement, dans une église comme la nôtre, on a des statuts, des règlements intérieurs et une profession de foi. Alors nous, on n'a pas le
conseil de l'Église. Mais c'est depuis ce temps-là.
C'est les conseillers. Disons que c'est un livre, mais la nôtre a des professions de foi.
Il y a eu d'autres déclarations de foi, mais elles sont toutes inspirées plus ou moins par le concile de Nicée-Constantinople.
Vous avez parlé des chrétiens
Pas plus fort. Il vient d'en parler, c'était toute la conférence, non ? Toute la conférence peut arriver à
l'esprit. Parce que quand une fois qu'ils sont devenus minoritaires,
voilà, une fois qu'ils se sont séparés,
oui.
Donc eux, ils se sont retrouvés tout seuls.
Eh oui, ils se sont retrouvés pris entre deux feux. D'un côté, haïs par les chrétiens parce qu'ils étaient juifs, et haïs par les juifs parce qu'ils étaient chrétiens. Et vous avez donc. Pardon ? Non, ils ont commencé à décliner à partir de cette période-là, et ils disparaissent, disons, les dernières traces de ces gens-là, c'est au IVe siècle. On retrouve ensuite quelques traces de ces gens-là au IXe siècle, notamment dans l'islam. Et il semblerait, d'après des études récentes, que, en fait, l'historiographie officielle de l'islam est une réécriture de l'histoire, que Mahomet n'est pas le fondateur de la religion islamique, mais que ce sont justement des ébionites, ça veut dire des juifs chrétiens, non croyant que Jésus est le Fils de Dieu, qui sont à l'origine de l'islam. Ça veut dire que l'islam a recyclé, en quelque sorte, finalement, c'est la doctrine de l'islam. Jésus est le Messie, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Et vous retrouvez ça, donc ça viendrait directement des ébionites. La première femme de Mahomet était une ébionite, Khalidja, et il y avait donc à Médine d'importantes communautés d'ébionites qui habitaient là-bas et qui auraient influencé Mahomet et la religion islamique.
Qu'est-ce qu'il devrait en mettre là ? Il n'a rien fait.
Et si, il est devenu en quelque sorte le. Il est à la fois devenu le porte-parole de ces gens-là, et puis ensuite, il a été élevé au rang de prophète par les califes. Les véritables fondateurs du Coran et de ceux qui ont écrit le Coran, ce n'est pas Mahomet, ce sont les califes de Damas en particulier.
En fait, c'est une hérésie chrétienne.
C'est une, oui, d'une certaine manière, c'est une hérésie chrétienne. Oui.
C'est le banquier. Les Éblonites disaient également que c'était un substitut, il était montable à la place de...
Que
c'était un substitut sur la
croix. Ah, ce n'est pas les Éblonites qui croyaient ça. Ça c'était, c'est une autre hérésie, ça. C'est une autre forme d'hérésie. Mais on le retrouve aussi dans l'islam, oui.
Mais moi, je pensais que les juifs messianiques donc de l'époque, c'est à eux qui avaient donné naissance à toutes les églises chrétiennes d'Orient, comme les Maronites, les Syriacs, les Coptes.
Oh non. Ces églises-là ont gardé quelque chose des églises anciennes. C'est très intéressant de les étudier à ce niveau-là. Mais non, elles sont... Bon, l'église arménienne peut-être, oui, ça c'est peut-être une exception dans ce domaine-là. Et finalement, oui, un peu toutes les autres aussi, oui, vous avez quand même en partie raison, oui.
Il y a d'autres questions ? Oui, c'est une étude que sur un an. Vous avez de quoi poser des questions, mais on va aussi laisser le frère partir. On peut le réinviter ?
Oui.
Ça vous intéresse ?
Oui.
Vous replongez dans les racines. Pardon ? Oui.
J'ai un peu noté l'histoire, mais
j'ai pas les capacités de M. Tour. Mais bon, je me intéresse.
Oui, une dernière question, alors, oui.
Hier, vous avez dit que en Bretagne, vous rasez les murs pour aller à la synagogue. Et est-ce que vous avez expliqué ça aux églises quand vous prêchez ? Et maintenant, ça va mieux ?
Ah oui, bah bien sûr. Oui. Oui, non, c'était un simplement qui avait cette antipathie contre les synagogues.
Oui, sauf que si c'est influent, une influence un peu dure.
Non, parce que les autres ont rigolé, quoi. Quand ils ont reçu cette lettre, ils ont rigolé.
Non, mais quelquefois, les jeunes ne comprennent pas qu'ils discutent avec eux et après ils comprennent.
Pas toujours.
On remercie Pasteur Sebois. On va prier pour le retour.